début d'après-midi, je pénètre dans la forêt. Oshima-san m'a prévenu qu'il était dangereux de s'aventurer loin. Il m'a conseillé de toujours garder la cabane dans mon champ de vision. Mais comme je vais passer quelques jours seul, ici, je trouve plus rassurant d'explorer un peu les environs. Les mains vides, je quitte la clairière ensoleillée et m'enfonce sous les hautes futaies sombres. Il y a un sentier rudimentaire qu'on a tracé en suivant la topographie du lieu et qui s'est sans doute aplani au fur et à mesure. Ici et là, des rochers plats, posés comme sur une allée, facilitent la marche. Les endroits érodés sont renforcés par de gros rondins qui permettent de ne pas perdre le chemin de vue, même si des herbes le recouvrent. C'est peut-être le frère aîné d'Oshima qui a aménagé ce sentier au cours de ses séjours. Le sentier gravit un raidillon et redescend un peu, contourne un gros rocher avant de grimper de nouveau. Je monte des côtes la plupart du temps, mais elles ne sont pas trop raides. De grands arbres au tronc terne se dressent des deux côtés. Un lacis de grosses branches s'étend dans tous les sens. Les feuillages épais forment un dais au-dessus de ma tête. Sur le sol prospèrent des plantes de sous-bois et des fougères, se nourrissant de la faible lumière qui parvient jusqu'à elles. Dans certains coins, le soleil ne pénètre jamais et la mousse recouvre les rochers. Le chemin devient de plus en plus étroit au fur et à mesure que j'avance. Comme quelqu'un qui commence à raconter une histoire avec exaltation, puis finit par bredouiller, son débit diminuant peu à peu, ainsi le chemin cède-t-il la place au sous-bois. On ne voit plus trace d'aménagement. Il devient difficile de dire si le sentier a été tracé par la main de l'homme. Bientôt, il disparaît d'ailleurs complètement dans un océan de mousse vert vif. Peut-être reprend-il ensuite, mais je trouve préférable d'attendre une autre occasion pour le vérifier. Il me faudrait un équipement et une tenue adéquate pour m'aventurer plus loin. Je m'arrête pour regarder derrière moi. Rien dans ce paysage inconnu ne m'encourage à continuer. Des troncs lugubres, en rangs si serrés qu'ils se chevauchent, limitent mon champ de vision. Dans la pénombre des alentours, l'atmosphère stagnante paraît vert foncé. Je n'entends même pas d'oiseaux chanter. J'ai soudain la chair de poule, comme si un vent coulis venait de passer. Pas d'inquiétude inutile. Je suis sur le chemin par lequel je suis venu. Si je ne le perds pas, je vais pouvoir retourner vers la lumière. J'avance prudemment en regardant à mes pieds jusqu'à ce que je débouche sur la clairière de la cabane, emplie de lumière et de chants d'oiseaux. Les petits oiseaux cherchent de la nourriture en gazouillant gaiement. Rien n'a changé depuis tout à l'heure. La chaise sur laquelle j'étais assis est toujours là, sur le perron. Le livre que j'étais en train de lire est là, par terre, devant elle. Ouvert. Mais maintenant, j'ai réellement conscience du danger que recèle la forêt. Je ne dois pas oublier cela. Comme me l'a dit le garçon nommé Corbeau, il y a plein de choses que j'ignore en ce monde. Je ne savais pas, par exemple, que les plantes pouvaient avoir l'air aussi inquiétantes. Celles que j'avais vues et touchées jusqu'à présent étaient toutes des plantes citadines, domestiquées et joliment entretenues. Bien différentes de celles que j'ai vues dans cette forêt. Elles sont dotées d'une véritable force physique. Elles répandent leur souffle délétère sur les humains qui s'aventurent près d'elles, les fixent comme si elles avaient repéré une proie. Quelque chose dans cette forêt évoquait une obscure magie préhistorique. Les arbres règnent sur ces bois, tout comme les créatures vivant au fond des océans règnent sur les abysses. La forêt peut me rejeter ou m'avaler, selon ses besoins. Il vaut mieux garder une crainte révérencieuse envers ces arbres. Je retourne à la cabane, sors une boussole de mon sac à dos et la range dans ma poche, non sans avoir soulevé le couvercle et vérifié que l'aiguille est bien orientée au nord. Elle pourra m'être utile en cas de danger. Ensuite, je m'assieds sur le perron, regarde les arbres. Écoute de la musique sur mon baladeur. Cream, Duke Ellington. De vieux morceaux que j'ai trouvés dans une bibliothèque et enregistrés. J'écoute plusieurs fois Crossroads. La musique m'apaise un peu. Mais je ne peux pas l'écouter trop longtemps. Il n'y a pas d'électricité dans la cabane, je ne pourrai pas recharger la batterie. Quand mes piles de réserve seront épuisées, adieu la musique. Je fais un peu de sport avant le dîner. Pompes, abdos, flexions, poirier, suivi de quelques mouvements de gymnastique. Ce sont des exercices qui permettent de se maintenir en forme dans un espace étroit, sans machine ni installation sportive. Simple, ennuyeux, mais efficace. Si on les exécute correctement, on obtient des résultats. C'est un prof de gym qui me les a appris. « C'est l'entraînement le plus solitaire du monde », m'avait-il expliqué. « Ceux qui s'y consacrent avec le plus d'acharnement sont les gens en captivité. » Je me concentre, fais quelques séries, jusqu'à ce que ma chemise soit trempée de sueur. Après un dîner frugal, je sors sur le perron contempler les innombrables étoiles qui scintillent au-dessus de ma tête. Elles ont l'air d'avoir été jetées au hasard dans le ciel. Je n'en avais jamais vu autant, même au planétarium. Certaines parmi elles me paraissent étrangement grandes et jettent un éclat vif. J'ai l'impression que je pourrais les atteindre si je tendais la main avec suffisamment de concentration. Le spectacle est à couper le souffle. Mais les étoiles ne sont pas seulement belles. Elles vivent et respirent, comme les arbres de la forêt. Et elles me regardent. Elles savent ce que j'ai accompli jusqu'ici et ce que j'accomplirai dans l'avenir. Rien ne leur échappe, pas le moindre recoin de ma vie. Sous ce ciel de nuit étincelant, une peur intense s'empare à nouveau de moi. J'ai du mal à respirer. Mes battements de cœur s'accélèrent. Depuis le début, je vis sous le regard de toutes ces étoiles et je n'avais encore jamais remarqué leur présence. Je n'avais jamais pensé sérieusement aux étoiles. Non, il n'y a pas que les étoiles. Il y a en ce monde tant de choses que je n'ai jamais remarquées. À cette pensée, je me sens désespérément impuissant. Et je sais que, où que j'aille, je n'échapperai pas à ce sentiment. Je rentre dans la cabane, dépose des bûches dans le poêle en les empilant soigneusement. Je roule en boule de vieilles feuilles de journal, les enflamme avec une allumette, vérifie que la flamme se propage bien partout. Quand j'étais écolier, on m'a envoyé en camp de vacances pendant l'été. J'avais détesté ce camp, mais j'y avais au moins appris à faire du feu. J'ouvre la soupape du poêle pour laisser sortir la fumée. Au début, le feu ne prend pas, mais une bûche finit par s'enflammer, puis une autre. Je ferme le couvercle, pose la chaise devant, lis la suite du livre sur Eichmann. Une fois que les flammes sont suffisamment hautes, je pose une bouilloire emplie d'eau sur le poêle. De temps à autre, le couvercle émet un agréable gargouillis. Naturellement, l'ensemble du projet d'Eichmann n'a pas été exécuté avec l'efficacité qu'il souhaitait. Soumise aux conditions locales, les choses n'avancent pas toujours selon ses prévisions. Dans ces cas-là, il a une réaction assez humaine. Il s'énerve. Il déteste tous les impondérables vulgaires qui viennent perturber ses magnifiques calculs. Les trains arrivent en retard. Les démarches administratives retardent l'exécution des ordres. Certains commandants sont mutés. Leurs successeurs ne sont pas aussi diligents. Après la débâcle à l'est, les gardiens des camps sont envoyés au front. Il y a des chutes de neige abondantes. L'approvisionnement en gaz est insuffisant. Les lignes de chemin de fer sont bombardées. Eichmann en vient même à détester la guerre, cet élément incontrôlable qui dérange l'exécution de son plan. Dans la salle d'audience du palais de justice, il expose les aléas auxquels il a dû faire face, sans manifester la moindre émotion. Il fait preuve d'une mémoire impressionnante. Sa vie est intégralement composée de détails pragmatiques. Quand l'horloge indique 10 heures, j'arrête de lire, me brosse les dents et me débarbouille. Je rabats la soupape du poêle pour que le feu s'éteigne naturellement pendant la nuit. Les braises rouges éclairent la pièce d'une lueur orangée. Il fait bon. et ce confort atténue ma tension et ma peur. Je me glisse dans mon sac de couchage en t-shirt et caleçon. Mes yeux se ferment bien plus facilement qu'hier soir. Je pense un peu à Sakura. « J'aurais bien aimé être ta sœur », avait-elle dit. Je m'efforce de chasser tout cela de mon esprit. Je dois dormir. J'entends une bûche se fendre dans le poêle. Dehors, une chouette ulule. Je me sens entraîné dans un rêve nébuleux. Le lendemain, la même routine se répète. Je me réveille au chant des oiseaux peu après 6 heures. Je fais chauffer de l'eau, bois du thé, puis me prépare un petit déjeuner et mange. Ensuite, je lis sur le perron, écoute de la musique, vais chercher l'eau au ruisseau. Comme la veille, je m'engage dans le petit sentier qui s'enfonce dans la forêt. Cette fois, j'emporte ma boussole. J'y jette parfois un coup d'œil, repère la direction de la cabane. Je fais des encoches sur les troncs d'arbres avec la hachette pour marquer mon chemin, et j'arrache les herbes folles pour dégager la voie. Comme hier, la forêt est sombre et profonde. Les arbres aux hautes cimes m'encerclent, tel un mur épais. Je crois voir des choses sombres dissimulées entre les branches, sortes d'animaux en trompe-l'œil, et me sens à nouveau observé. Mais je n'ai plus la chair de poule comme hier. Je me suis donné des règles et les respecte scrupuleusement. De cette façon, j'espère ne pas me perdre. J'arrive à l'endroit où je me suis arrêté hier et continue ma route. Je pose le pied dans l'océan de fougères qui dissimule le sentier. De nouveau, la haute muraille des arbres m'encercle. Je continue à faire des entailles ici et là sur les troncs. Quelque part, au-dessus de ma tête, un grand oiseau bat des ailes pour intimider l'intrus que je suis. J'ai la bouche sèche et je déglutis de temps en temps. Quand j'avale ma salive, j'entends le bruit résonner alentour. Après avoir avancé un petit moment, je tombe sur une clairière entourée de hauts arbres. On se croirait au fond d'un grand puits. Les rayons du soleil se déversent tout droit entre les branches, éclairant le contour de mes pieds comme des projecteurs. Cet endroit me paraît étrange. Je m'assieds par terre pour recevoir un peu de cette lumière bénie. Je sors une barre de chocolat de ma poche, savoure le goût sucré qui se répand dans ma bouche. Je me rends compte à quel point la lumière du soleil est indispensable aux humains. J'apprécie pleinement chaque seconde de ces instants précieux. Le sentiment de solitude et d'impuissance que le spectacle du ciel étoilé avait suscité en moi a disparu. Mais au fur et à mesure que le temps passe, l'angle du soleil se modifie et la lumière décline. Alors, je me lève et retourne à la cabane en suivant le même chemin qu'à l'aller. Dans l'après-midi, de sombres nuages recouvrent soudain le ciel. L'air prend une teinte mystérieuse. Et soudain, un violent orage éclate. La pluie s'abat sur le toit et les fenêtres, d'où s'élèvent aussitôt comme des cris déchirants. Je me déshabille entièrement et sors tout nu sous l'averse. Je me savonne les cheveux, le corps, et me lave sous cette douche naturelle. Je me sens merveilleusement bien. Je ferme les yeux et hurle à tue-tête des mots sans suite. Les grosses gouttes me frappent comme des cailloux. Ces pointes de douleur semblent faire partie d'un rituel d'initiation. Elles frappent mes joues, mes paupières, ma poitrine, mon ventre, mon pénis, mes testicules, mon dos, mes jambes, mes fesses. Je ne peux même pas garder les yeux ouverts. De cette douleur se dégage un sentiment d'intimité avec le monde, comme si enfin il me traitait justement. Je me sens extatique, soudain libéré. Les mains levées vers le ciel, j'ouvre grand la bouche pour avaler l'eau qui dégouline sur moi. Une fois rentré dans la cabane, je m'essuie avec une serviette, puis je m'assieds sur le lit et regarde mon sexe. Un pénis jeune et sain, à la peau claire. Le gland me fait encore un peu mal à force d'avoir été frappé par la pluie. J'observe longuement cet étrange organe que je suis incapable de contrôler la plupart du temps, alors qu'il fait partie de moi. On dirait qu'il est animé de sa propre volonté, indépendamment de la mienne. Oshima-san a séjourné seul ici au même âge que moi. Était-il lui aussi tourmenté par ses pulsions sexuelles? Sans doute que oui. C'est l'âge qui veut ça. Mais je n'arrive pas à l'imaginer en train de se masturber, par exemple. Il me paraît trop au-dessus de ces choses-là. Il a dit qu'il était quelqu'un de spécial. Mais j'ignore ce qu'il a voulu dire par là. Je sais bien que ce n'étaient pas des mots prononcés au hasard, ni une allusion vide de sens. Je tends la main pour me branler. Puis je change d'avis. J'aimerais conserver encore un peu cette étrange sensation de pureté que m'a procurée ma douche sous la pluie. J'enfile un caleçon propre, respire profondément plusieurs fois de suite, puis je m'attaque à ma série de flexions. Ensuite, je passe aux abdos. J'en fais une centaine. Je me concentre sur chacun de mes muscles. À la fin de l'exercice, j'ai l'esprit beaucoup plus clair. Dehors, la pluie a cessé. Les nuages se sont dispersés et le soleil perce. Les oiseaux chantent à nouveau.
Pareille paix ne dure pas longtemps, tu le sais. Les bêtes te poursuivront partout, inlassablement. Elles surgiront de la forêt profonde, tenaces, sans pitié, ne connaissant ni la fatigue, ni l'abattement. Tu as réussi à te retenir de te masturber, mais tout à l'heure cela prendra la forme d'une pollution nocturne, au cours d'un rêve où tu violeras peut-être ta sœur ou ta mère. Cela, tu es incapable de le contrôler. C'est au-dessus de tes forces. Tu ne peux que l'accepter. Tu as peur de ton imagination, et plus encore de tes rêves. Tu crains cette responsabilité qui commence dans le rêve. Mais tu ne peux pas t'empêcher de dormir. Et quand tu dors, les rêves surviennent immanquablement. L'imagination diurne est maîtrisable, pas les rêves.
Allongé sur le lit, j'écoute Prince avec mes écouteurs. Je me concentre sur cette musique étrange, sans la moindre pause. Une première pile expire en plein milieu de Little Red Corvette. La musique disparaît lentement, comme engloutie par des sables mouvants. J'ôte les écouteurs et j'écoute le silence. Le silence, ça s'écoute. Je le sais maintenant.